Salut les petites oreilles, eh bien nous voici au dernier épisode de ce cycle nature. Et n'oublie pas, si tu as envie de garder le contact avec l'équipe du podcast Oyé, tu peux t'inscrire à la newsletter en te connectant sur oyelepodcast.fr. À très vite et bonne écoute. Bonjour les petites oreilles et bienvenue dans Oyé, le podcast des 7-12 ans. Pour ce nouveau cycle autour de la nature, nous avons enregistré avec Noémie un épisode bonus qui est le quatrième épisode de cette série. Noémie, vous la connaissez parce que c'est la voix du podcast Oyé. Moi je suis Émilie et d'habitude je suis derrière l'enregistreur. Et aujourd'hui, mon invité est Noémie, donc elle ne peut pas être l'invité et l'intervieweuse en l'occurrence, donc c'est moi qui m'occupe de l'interview de Noémie, qui est donc avec moi aujourd'hui. Bonjour Noémie.
Bonjour Émilie, bonjour les petites oreilles.
Et merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast qu'aujourd'hui avec la Casemat, le Centre de Sciences de Grenoble.
Avec grand plaisir.
Noémie, toi, t'es la voix du podcast Oyé, mais dans la vie, t'as un travail, et t'as même plusieurs travails. Un de ces travails, c'est d'être finalement médiatrice de l'environnement, et on peut dire même animatrice de la nature. Tu aimes te définir comme agitatrice culturelle. Alors moi, la première question que j'aimerais bien te poser, c'est qu'en fait, Oyé, effectivement, c'est un podcast qui est coproduit, on a dit, avec la Casemat, qui est le Centre de Sciences de Grenoble. On tourne parfois les épisodes chez toi. Toi, tu n'habites pas à Grenoble. Grenoble, pour les petites oreilles qui nous écoutent d'ailleurs, eh bien, en fait, c'est une ville entourée de montagnes. Mais toi, où est-ce que tu habites et à quoi ça ressemble ?
Alors moi, j'habite justement dans la montagne, à 1500 mètres d'altitude. Donc ça veut dire 1,5 km au-dessus du niveau de la mer. Donc bien, bien haut. Tout proche d'une forêt d'épicéa. Faut imaginer que chez moi, c'est enneigé 4 mois par an.
Oh, t'as souvent les pieds dans la neige alors ?
Très souvent. Voir les pieds mouillés, des fois. Il fait pas toujours beau. Par exemple, le mois de novembre, on est dans le nuage. Eh oui. Quand vous, dans la ville, vous avez les nuages au-dessus de vos têtes, eh bien, il y a des gens dans les montagnes qui sont dans le nuage. Et puis, des fois, on a le nuage juste en dessous. Et là, c'est magnifique parce qu'on voit les montagnes et une mer de nuages et on ne voit plus la ville.
Donc, ça veut dire que toi, tu habites dans la montagne. J'imagine qu'il y a plein d'animaux aussi dans cette forêt.
Ah oui. Alors moi, j'habite pas toute seule, on est dans mon petit village, 50 habitants, et puis il y a des centaines d'animaux, des dizaines d'espèces différentes, autant des oiseaux que des grands ongulés, et puis parfois, on a la chance de voir une trace de loup passer, ou le cri d'un lynx de temps en temps.
Waouh, ça doit être absolument impressionnant, et c'est d'autres sons justement qu'on n'entend pas en ville.
Absolument pas. On a aussi, par contre, des sons plus industriels, si je puis dire, des dameuses, par exemple, puisque j'habite dans une station de ski. Le bruit aussi des télécabines, voilà, des sons que vous n'avez pas non plus. Voilà. Mais tout ça, c'est comme dans chaque territoire, il y a des espaces où on entend le son des bateaux près de la mer, et puis où on entend le chant du coq le matin en plein milieu de la campagne.
Pour les enfants qui n'habitent pas en montagne, qui ne seraient jamais allés à la montagne dans une station de ski, un télécabine, un téléphérique, c'est un espèce d'ascenseur dans lequel les gens montent avec leur ski, leur snowboard ou même à pied pour remonter la montagne sans trop se fatiguer. Et ensuite, ils redescendent avec leurs pieds ou en glissant avec leur ski ou leur snowboard jusqu'en bas de la montagne. Et c'est ce qu'on appelle des télécabines, des téléphériques. Il y a aussi des télésièges en plein air qui sont des ascenseurs sur lesquels on est assis, en quelque sorte.
Exactement. On peut aussi redescendre en télécabine, téléphérique, monter en haut de la montagne juste pour profiter du paysage. Et ça, c'est vrai que ça vaut le coup.
Alors dans l'introduction, Noémie, j'ai dit un gros mot et j'ai donné plein de synonymes de ce gros mot. J'ai dit le gros mot de médiatrice culturelle. C'est comment est-ce que toi tu définis ton travail ? Est-ce que tu peux me raconter et raconter aux petites oreilles qui nous écoutent aujourd'hui ce que c'est qu'une médiatrice culturelle ?
Alors moi je mets en relation un objet culturel avec un ou des publics. Un objet culturel, ça peut être très très vaste, ça peut être un tableau. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un morceau de musique. Et puis moi, j'aime bien dire qu'un objet culturel, ça peut être aussi une recette de cuisine, ça peut être un conte, ça peut être une fleur, ça peut être un arbre, et ça peut être un animal en voie de disparition.
Donc finalement, quand on habite dans une ville ou quand on habite dans une montagne, tout ce qui est autour de nous est un objet culturel, c'est ça que tu es en train de nous dire?
Pour moi, oui, tout est culture.
Très bien. Alors, à quoi ça te sert justement de mettre en relation cet objet culturel et ce public qui pourrait très bien être un enfant? Parce qu'en fait, quand on fabrique Oyer le podcast, finalement, on propose à un enfant d'écouter la voix d'un adulte qui lui raconte sa propre culture, son propre objet culturel. À quoi ça te sert justement de raconter ces objets culturels qui nous entourent?
Exactement, c'est ce que tu viens de dire. On fait avec Oyer de la médiation culturelle. On choisit donc une thématique, on sélectionne un expert et on le fait écouter à des centaines de paires de petites oreilles. La médiation culturelle, ça permet finalement de mieux se comprendre entre nous tous, de mettre en relation les gens et les cultures. Chez moi, dans la montagne, j'aime mettre en relation le territoire avec les gens qui y habitent ou qui seulement y passent. Je suis persuadée que si on connaît un territoire, on va l'aimer et on pourra le protéger. Et aujourd'hui, protéger nos espaces, sensibles ou non, c'est essentiel.
Alors, tu as dit un mot qui est « connaître ». Et moi, la question que je me pose, c'est finalement, comment est-ce que toi, Noémie, en tant que Noémie, tu connais mieux ton territoire ?
Alors moi, j'ai rencontré des gens qui en savaient beaucoup, parce que je ne suis pas du tout de la montagne. Aujourd'hui, j'habite donc à 1500 mètres d'altitude, mais je viens d'un département qui s'appelle la Mayenne, dont le point culminant doit faire 200 mètres d'altitude, et en général, c'est loin, c'est à 800 km de Grenoble. Et puis c'est plutôt la campagne. Donc quand je suis arrivée dans ma montagne, j'ai découvert des gens, et puis je suis allée me balader aussi pour en apprendre par moi-même. J'ai écouté les histoires des anciens, notamment. J'ai beaucoup appris auprès d'eux.
Et t'as lu peut-être aussi ?
Oui, j'ai lu, effectivement. Je suis allée dans des musées aussi. Il y a des espaces, donc les bibliothèques où on lit des livres, les musées où on peut être mis directement en relation avec des œuvres ou des objets du quotidien passé. Ça nous permet d'en apprendre plus sur l'endroit où on vit.
D'accord, alors je comprends bien que toi, tu essayes d'engranger des connaissances à partir du moment où tu arrives dans cette montagne. C'est rigolo parce que tu dis « ma montagne ». Donc c'est vraiment là, c'est ton lieu à toi, parce que tu veux protéger cette montagne. À ton avis, là où tu habites toi en ce moment, près de Grenoble, dans la montagne, quels sont les objets culturels qu'on doit protéger ?
Alors d'abord, je crois que comme dans chaque territoire, il y a une histoire à protéger. L'histoire, c'est ce que les gens ont à dire, comment ils ont vécu, et ça va nous permettre de comprendre où on en est aujourd'hui. Si on n'a pas cette histoire, on va être un peu perdu. Il va nous manquer quelque chose, un maillon, pour mieux du coup nous sentir dans notre espace, en fait. Donc d'abord, il y a l'histoire qui est très importante. Et puis ensuite, ce qu'il faut protéger pour moi aujourd'hui, mais partout en France, voire partout dans le monde, en fait, c'est notre nature, notre environnement, ce qui fait qu'aujourd'hui, les espaces sensibles, peut-être les animaux... ce qui fait qu'on est un monde aujourd'hui.
C'est marrant parce que ça fait deux fois que tu parles d'espace sensible. Est-ce que tu peux expliquer aux petites oreilles ce que c'est un espace sensible ? C'est une définition bien particulière.
Pour moi, un espace sensible, c'est d'abord un lieu où on se sent bien, où du coup on est attaché intimement, donc dans notre être le plus profond. Ça, c'est le côté sensible, sens. Les sens, c'est le toucher, la vue, l'odorat, tout ce qui va nous heurter, si je puis dire, au bon sens du terme.
Et au monde.
Voilà, qui nous met au monde, effectivement. Et puis sensible dans le sens dont on doit faire attention, où on ne va pas aller écraser, par exemple, certaines plantes, où on ne va pas rouler, où on ne va pas mettre des vaches en pâture. Voilà, il y a plein d'espaces comme ça en France où on ne peut pas, ou qu'il ne faut pas, en fait dégradés pour garder toute leur authenticité.
Très bien, donc tu nous as parlé d'un territoire, d'objets culturels à protéger, de connaissances que tu as. Moi, j'ai pas une très grande connaissance des enfants, mais j'ai l'impression qu'ils aiment pas trop rester assis. Alors, comment est-ce que tu partages ces connaissances sans les mettre derrière une table et qu'ils t'écoutent pendant des heures? Parce que c'est aussi important de trouver des moyens de les intéresser et de faire qu'ils soient bien aussi quand tu leur racontes tout ça.
Alors, ça tombe bien parce que moi, j'aime pas trop non plus rester derrière une table, en tout cas, surtout quand je parle à des enfants. Donc, ce qu'on fait, c'est que les groupes que je rencontre, je les emmène en forêt. Et là, on va observer d'abord. Dans un premier temps, regarder ce qui nous entoure. Alors, chez moi, on a des forêts qui sont composées à 99% d'épicéas. Un épicéa, c'est un conifère. Donc, c'est un arbre qui a des aiguilles et qui ne perd pas ses feuilles comme les feuillus. Les épicéas, on va les regarder et puis on va faire des petits jeux autour de ce qu'ils sont, apprendre à compter leur âge par exemple, ou alors juste découvrir les autres espèces qui les entourent, qui peuplent l'épicéa. D'ailleurs, toi, tu sais comment on compte l'âge de l'épicéa ?
Moi, je pense qu'il faut le découper dans son tronc. Et bon, du coup, on le tue, mais on regarde le nombre de cernes qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça que moi, je compterais. Donc, je ne compterais pas beaucoup l'âge des épicéas parce que j'aime pas trop les tuer comme ça.
Alors ça, effectivement, c'est le cas avec la plupart des espèces. On a besoin de couper l'arbre pour savoir quel âge il avait. Effectivement, des fois, on peut juste regarder la circonférence de son tronc, puis on se doute bien s'il est vieux ou pas. Mais l'avantage des épicéas, c'est qu'on n'a pas besoin de les couper pour savoir. Il faut compter le nombre de verticilles. Alors, le verticille, c'est quoi ? C'est en gros un étage de branches. Donc, on compte le nombre d'étages de branches d'un épicéa depuis la base de son tronc jusqu'à son sommet. Et on ajoute 3 ans. Des fois, c'est un peu difficile de voir les sommets des épicéas, surtout quand ils sont dans une forêt un peu dense. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on regarde si l'épicéa a des cônes. Les cônes, ce sont les pommes de pin, ce qu'on appelle habituellement les pommes de pin, mais en l'occurrence, c'est les cônes d'épicéa, chez l'épicéa. S'il en a, c'est qu'il a au moins 50 ans. Mais s'il n'en a pas, il a moins de 50 ans. Alors, c'est comme la puberté chez les humains, on n'est pas à un an près, mais c'est assez vrai comme loi de la nature, si je puis dire.
Ce qui est intéressant aussi à rajouter, peut-être pour les enfants qui sont pas forcément habitué à aller en forêt, c'est qu'un épicéa, en fait, ça ressemble à un sapin de Noël. C'est une sorte de sapin de Noël.
Exactement.
C'est pas un arbre avec des feuilles comme un pommier ou comme un poirier. Voilà, il a pas de feuilles, il a des épines.
Des aiguilles, ouais.
Des aiguilles. Et ça vous permet de vous figurer ce que c'est qu'un épicéa.
Alors, un petit moyen mémotechnique pour reconnaître un épicéa d'un sapin, notamment épicéa tête en bas, donc on regarde les cônes et ils ont la tête vers le bas, alors que les sapins sapinaux, tête en haut.
Prodigieux. Je ne savais pas et je suis toujours très embêtée devant un truc avec des aiguilles. Je sais que c'est un sapin ou un épicéa, mais je ne sais pas comment les reconnaître. Donc tête en bas, tête en haut. Exactement. Épicéa, tête en bas, sapinaux, tête en haut. C'est superbe comme moyen mnémotechnique. Merci beaucoup. Alors là, tu nous as parlé beaucoup des arbres. Tu les observes. Tu peux les dater, tu peux savoir s'ils sont là, tu peux les observer sur le temps long et nous dire s'ils disparaissent ou pas. Mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour les animaux ? Parce qu'ils fuient devant nous, ils ne se laissent pas compter.
Ah oui, il faut imaginer une sortie scolaire avec un groupe de 32 enfants.
Ça fait du bruit.
Dans une classe, fait énormément de bruit. Et donc, c'est impossible. À la rigueur, on arrive à voir quelques oiseaux, mais on ne les voit pas de près. Mais en fait, les animaux, ils laissent des traces derrière eux.
Et oui, des petites empreintes dans la boue, dans la neige, puisque toi, tu as de la neige autour de chez toi.
Voilà, donc ça marche pour les lièvres, par exemple, lièvres variables. Ça, c'est très facile. On remarque des Y dans la neige. Et donc, c'est le passage d'un lièvre variable. Mais les écureuils, beaucoup plus compliqué de voir un écureuil, sauf si on a un noisetier près de chez soi. Mais l'écureuil, lui, dans les forêts, il va manger les cônes donc de conifères, les pommes de pin, et il va y laisser toujours un tout petit bout avec des écailles au bout, et puis tout le reste du cône va être bien bien mangé, donc la tige au milieu sera très très propre. Ça, c'est l'écureuil.
Comme lorsque vous mangez une pomme, mais vraiment très bien, et que vous laissez juste quelques petits pépins au milieu, mais que le tout le reste, vous la mangez très très bien. Alors, quel autre animal ne mange pas très bien son cône ?
Alors, effectivement, il y a les sucettes donc voilà, de l'écureuil, et puis il y a les sucettes du mulot, qui lui, mange pas très bien. Il a les dents beaucoup plus courtes, en fait, le mulot, et donc il va pas jusqu'au bout. Donc, il arrache des bouts des écailles des cônes d'épicéa.
Superbe.
Donc ça, c'est une partie sur voilà, les petits rongeurs, mais on peut trouver des déjections, par exemple, les cacas sur les cailloux. Tu sais à quelle espèce ça appartient ?
Je dirais que ça appartient, si c'est petit et rond, ça appartient à un lièvre ou à un lapin.
Ah ouais, mais ça, tu peux en trouver n'importe où sur le chemin, mais vraiment ceux qui sont sur les cailloux.
Ah, il y a des princesses animaux et des princesses qui
font que sur des cailloux.
C'est une bonne question. Sur les cailloux. Peut-être l'écureuil qui descendrait de son arbre et qui se dirait tiens, je vais rien laisser ici, je vais tout aller mettre en bas, non ?
Bien plus gros, le renard.
Ah, ok, le renard est le princesse caillou.
Exactement.
Très bien, le prince caillou.
Le prince caillou, tout à fait. Et puis, vous pouvez aussi trouver des pelotes de réjection des chouettes ou des hiboux.
Ça, c'est intéressant de leur expliquer ce que c'est, peut-être aux petites oreilles, parce que c'est assez spécifique.
Alors, en fait, les chouettes mangent tout ce qui va passer, par exemple une souris entière, et puis elle va recracher une partie, et notamment les poils et les os. Et donc, on peut retrouver sur leur passage ces pelotes de poils. Puis parfois, quand on ouvre un peu les pelotes, on découvre d'autres choses. Et notamment, moi, dans ma forêt, il y a pas mal de pelotes avec des coquilles d'œufs de poules. Alors, il faut imaginer qu'à 1500 mètres d'altitude, il n'y a pas des poules
sauvages,
effectivement. Mais par contre, il y a de l'activité humaine, il y a des humains qui mangent des œufs et qui ont des composts. Et en l'occurrence, ça vient peut-être de chez moi, on met nos œufs dans le compost et peut-être que les chouettes viennent se nourrir directement dans nos composts, puisqu'en fait, comme les renards d'ailleurs, hein, il reste toujours un peu de blanc. Et c'est très très bon. Et donc ils viennent récupérer cette nourriture, peut-être les chouettes avalent quelques bouts de coquilles, et c'est quelque chose qu'elles ne digèrent pas, c'est pas très sympathique quand même à avaler. Donc elle le recrache.
C'est fantastique. Donc là, tu es en train de dire qu'avec les enfants, tu vas observer la nature et c'est la première chose que tu fais avec ces enfants pour leur raconter comment protéger la nature et comment la regarder. Et puis, il y a aussi la deuxième chose, c'est que tu m'as beaucoup parlé des ateliers que tu faisais avec les enfants pour leur permettre de mettre la main à la pâte, justement, pour leur permettre peut-être de fabriquer des choses, pour leur permettre de fabriquer leurs propres objets culturels par rapport à ce qui les entoure. Est-ce que tu peux nous raconter un atelier que tu fais avec eux ?
Alors oui, il y a un atelier que j'aime beaucoup qui s'appelle le cyanotype. Donc, il faut imaginer de la photographie sans appareil photo, un peu dur dit comme ça. En fait, on va réaliser une empreinte de végétal. Donc, les végétaux, ce sont les fleurs, les feuilles, les arbres, très très gros, tout ce qui n'est pas animal. On part en cueillette, il y a quelques règles à respecter, on ne va pas cueillir les fleurs chez les gens, on ne ramasse pas certaines espèces qui sont protégées.
Comme le sabot de Vénus ou les Delveis.
Par exemple, voilà, sur ma montagne, on a des orchidées qui poussent au printemps. On a l'impression que ce n'est pas du tout rare, parce qu'évidemment, il y en a partout, juste à l'espace dans l'espace où on vit. Et pour autant, en fait, il y en a partout pendant 2 semaines, et après, il n'y a plus rien. Donc, il faut vraiment en prendre grand soin. On ne ramasse pas aussi toutes les fleurs au même endroit. Donc, quand on est une classe de 32, on ne va pas ramasser 32 pissenlits juste au même endroit. On va essayer de se répartir sur le chemin pour qu'il y en ait les années suivantes, finalement. Donc, on fait notre cueillette, puis on rentre en classe. Et là, on va réaliser notre empreinte avec le soleil. On met notre végétal sur un papier qui est enduit de produits chimiques et on fait prendre le soleil à ce papier. Ensuite, on rentre à l'intérieur, on rince notre papier et là, l'empreinte apparaît. Un fond blanc, donc l'empreinte blanche sur, avec un contour bleu, bleu qu'on appelle cyan, un bleu puissant, un peu plus lumineux que le bleu marine qu'on connaît.
Le bleu marine, c'est presque du noir. Là, il faut imaginer un bleu qui tire un peu vers le clair, mais qui n'est pas un bleu clair tout de même.
C'est compliqué
à raconter à la radio, mais c'est ça.
Tout à fait. Ça, c'est le cyanotype et c'est une animation, un atelier qui fonctionne très bien et surtout qui nous permet de nous sensibiliser à ce qu'on appelle le changement climatique, qui est un peu un gros mot, mais qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. En fait, j'aime bien expliquer aux enfants que là, on va cueillir donc, par exemple du pissenlit, mais que peut-être dans 10, 20, 30 ans, à 1500 mètres d'altitude, il fera trop chaud et donc il n'y aura plus de pissenlit qui existera. Et donc, quand on retrouvera le cyanotype de ces enfants en 2050, on pourra comparer cette empreinte avec ce qu'il y a réellement sur le terrain.
Je comprends bien. Alors, c'est vraiment fascinant parce que tu as autant donc une approche plutôt sportive du milieu et puis aussi une approche culturelle, de pratique culturelle avec la nature qui t'entoure. Pour finir cette interview qui nous permet de mieux comprendre ton travail quand tu ne travailles pas sur OYE, tu souhaites nous parler d'un dispositif, donc dispositif ça veut dire projet, qui te tient particulièrement à cœur, c'est le Phénoclim.
Oui, alors le Phénoclim, c'est un programme scientifique qui permet de mesurer l'impact du réchauffement climatique sur les écosystèmes de montagne. Ce programme, il a un pendant plaine, donc partout ailleurs en France, en dehors des massifs montagneux que sont le Massif Central, les Pyrénées, les Alpes, les Vosges et le Jura. Donc partout ailleurs, vous avez le même programme qui s'appelle l'Observatoire des saisons. L'idée, c'est que chaque citoyen de 0, voilà, peut-être de 3 ans à 99 ans, puisse prélever des données dans la nature et les transmettre via Internet à des scientifiques. Ces scientifiques vont analyser toutes les données qu'ils ont reçues et en tirer les conclusions qui s'imposent, et donc voir notamment si les arbres fleurissent plus tôt ou plus tardivement d'une année sur l'autre. Est-ce que c'est une année seulement où il y a eu un changement, ou est-ce que ça s'installe ce changement dans le temps ? Voilà, c'est ce qu'on appelle des sciences participatives.
C'est super, ça veut dire que chaque citoyen, citoyenne, peut envoyer ses données aux scientifiques. Mais alors, est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'arbres à surveiller, beaucoup de fleurs, beaucoup d'animaux ? Est-ce que ça prend beaucoup de temps ?
En fait, on choisit. Moi, par exemple, j'ai commencé avec 3 épicéas. Donc, il faut au moins 3 arbres, en l'occurrence, pour pouvoir avoir différentes données. Parce que il y a des fois, par exemple, pour l'épicéa, on va regarder s'il fleurit ou non. Sauf que le problème de l'épicéa, c'est qu'il fleurit pas tous les ans. Donc, des fois, il va pas faire de cône. Donc, ce que les scientifiques veulent savoir, c'est est-ce que c'est dû à un changement dans le territoire ? Ou est-ce que c'est juste l'arbre en lui-même qui, cette année-là, n'a pas fleuri, mais parce que c'est normal dans son cycle ? Donc, il faut au moins 3 arbres. Mais ensuite, on choisit les espèces. Donc, moi, j'ai choisi l'épicéa. Là, ça fait déjà 2 ans que je regarde, que j'ai appris beaucoup, que ça y est, je me sens assez en confiance avec le programme Phénoclim pour me lancer l'année prochaine sur l'observation également de sorbiers. Je pourrais aussi observer le développement des amphibiens, et notamment des grenouilles, à quelle période elles vont pondre, et puis comment les têtards vont se développer. En fait, on choisit en fonction un peu de ce qu'on aime et de ce qu'on a envie de partager. L'idée, c'est vraiment d'aider les scientifiques au quotidien, dans leur travail, parce qu'eux, ils ne peuvent pas être partout en France.
Merci beaucoup, Noémie, d'être venue aujourd'hui nous raconter un peu ce que tu fais en tant que médiatrice culturelle. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant que tu nous parles des arbres, des animaux. Je suis persuadée que ça aura aussi intéressé les petites oreilles qui nous écoutent depuis le début. Et s'ils veulent, pourquoi pas, nous écouter depuis le début parce qu'ils débarquent sur ce podcast, ils peuvent le faire via le lien oyelepodcast.fr. Tu es d'habitude la personne qui est aussi chargée de trouver les objets culturels pour les petites oreilles, donc souvent c'est des livres. Avec quoi es-tu venue aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je veux vous présenter un livre qui s'appelle « Dans la forêt du paresseux », qui est publié chez Helium. C'est un livre de Anouk Bois-Robert et Louis Rigaud. C'est ce qu'on appelle un pop-up. Donc quand on ouvre les pages, le livre s'ouvre devant nous. C'est un spectaculaire récit en volume qui raconte de façon fascinante la destruction de la forêt par la main de l'homme, mais aussi l'espoir de sa renaissance. Sans vous en dire trop, on suit la vie d'un paresseux et de la destruction de sa forêt.
J'espère que ça se termine bien.
Je promets que ça se termine bien.
Ah, tout va bien. Alors, on vous mettra les références de ce livre sur notre site oyelepodcast.fr.
Oyez le podcast.
Voilà les petites oreilles, j'espère que cet épisode coproduit par la Casemate, le Centre de Sciences de Grenoble, et réalisé et monté par moi, Émilie Vadel, vous a plu. Aujourd'hui, nous avons accueilli Noémie, qui est la voix du podcast. En attendant les prochains épisodes pour un nouveau cycle, puisque là c'était le dernier des vacances, vous pouvez mettre des cœurs et poster des commentaires sur Apple Podcast ou faire un tour sur notre site oyezlepodcast.fr. Vous avez une rubrique où vous pouvez nous envoyer des petits messages et promis, on les lit tous et on répond à tous les enfants qui nous contactent.
À très vite les petites oreilles.
Oyez, le podcast des 7-12 ans.